Bonjour et bienvenue dans l'émission La vie de nos communes sur Fréquencier 97.9. Et puis aussi, vous retrouverez cette émission en podcast sur le site fréquencier.org. Voilà, comme toutes les émissions et comme toutes les interviews réalisées à l'antenne de Fréquencier. Donc, chaque semaine, nous avons le plaisir de recevoir un maire d'une commune des environs. Aujourd'hui, c'est monsieur Amiard. Bonjour.
Bonjour.
Et puis donc, cette émission sera en deux parties, donc monsieur Amiard, maire de Cure, donc émission en deux parties avec la première partie consacrée à la vie de la commune et à ses projets, et puis dans la deuxième partie nous parlerons du travail de maire et l'avenir de nos territoires ruraux puisque beaucoup de questions se posent aujourd'hui. Alors bien, peut-être commencer déjà par nous dire, si vous le savez ou pas, l'origine du nom de votre village. Vous me disiez tout à l'heure que c'était... Vous ne connaissiez pas, mais ça avait peut-être une connotation un peu religieuse.
Oui, bah effectivement, on peut imaginer, même si il n'y a pas d'historien local, ouais. Comme on en trouve parfois dans certaines communes, des gens qui se passionnent pour décrypter en fait toute l'histoire de la commune. Chez nous, à ma connaissance, non. Mais le terme de cure envoie bien sûr
un lieu où on soignait les gens, sûrement.
Oui, pratique religieuse, etc. Donc voilà, je pense que c'est cet héritage religieux pour une commune qui n'a par ailleurs pas de monument classé, qui n'a pas de, j'allais dire, d'histoire vraiment forte, alors qu'il y a un certain nombre de villages autour qui ont des châteaux, et donc nous étions rattachés à Lavardin, par exemple, au cours de notre histoire.
Et justement, vous parlez de vieilles bâtisses, est-ce que vous avez l'idée de la date de construction de la plus vieille bâtisse de votre commune ? C'est des choses vraiment très anciennes là-bas.
Non, c'est très ancien. Ma propre maison remonte à 1600 et quelques.
Ah oui, donc.
Et il y en avait encore avant, sans doute, dans les campagnes et dans le bourg. Donc, il y a un certain nombre de souterrains qui ont permis donc d'extraire de la pierre et de construire progressivement un certain nombre de maisons. Donc, ça remonte peut-être au Moyen-Âge. Voire avant, mais on n'a pas de documents et il n'y a pas d'histoire vraiment établie.
Et les gens, les habitants de Cure, on les appelle comment ?
Conventionnellement, nous dirions aujourd'hui des Curois, mais là encore, j'ai eu beau rechercher dans un certain nombre d'actes de la commune, je n'ai jamais retrouvé véritablement de choses précises. Donc aujourd'hui, on a considéré qu'on devait s'appeler des Curois et des Curoises.
Hein. Donc un gros travail d'histoire aussi à faire. Alors peut-être que les habitants de votre commune, nous environ, peut-être seront intéressés pour aller vous voir justement, pour fouiller un petit peu dans vos documents.
Eh bien, écoutez, nous, il n'y a pas de souci. On peut même les accompagner dans leur travail. Il suffit simplement qu'ils aient un petit peu de temps. Et c'est vrai que moi, le temps, c'est ce qui me manque aujourd'hui.
Oui, on en reviendra tout à l'heure. Alors, est-ce que vous pouvez nous situer un petit peu la commune de Cure et donner quelques éléments généraux, comme le nombre d'habitants, par exemple ?
Alors aujourd'hui, c'est une commune qui a 520-530 habitants environ, donc une population qui s'est accrue dans les années 90, début des années 2000, qui aujourd'hui est à peu près, stagnante, tout simplement parce qu'on n'a pas pu relancer récemment donc de lotissement, alors que précédemment, on a eu plusieurs tranches qui se sont succédées. Ça a permis de faire venir des familles à l'époque, et depuis, faute de maîtrise foncière, on n'a pas... puis bon, il y a eu la crise de l'immobilier, etc.
En 2008, oui.
Ouais, donc depuis, ça s'est stabilisé, j'allais dire. Il y a, bon, certes, quelques maisons qui ont été reprises par des jeunes ménages avec des enfants, mais il y a aussi des jeunes qui sont partis des maisons. Donc voilà, pour l'instant, on est dans une situation à peu près étale, pourrait-on dire.
Étale, oui. Alors, le bassin de vie, justement, le bassin d'emploi, dans quelle zone se situe Cure ? Est-ce qu'on est plus près de... D'où est-ce qu'on est plus près, justement ?
Écoutez, la commune regarde, en termes d'emploi, clairement vers le Mans. Nous sommes tributaires de l'emploi sur le Mans, de l'activité économique du Mans, donc dans l'ensemble des entreprises, du secteur industriel ou tertiaire. Ça, c'est vraiment le point central. Il faut dire qu'on est, pour vous donner une idée, le bourg est à un quart d'heure à peu près de la zone d'Auchan,
et
20 minutes à peu près de l'université. Ça ça, donc on est relativement proche du Mans. On n'est pas dans la toute première, mais j'irai dans la, on pourrait dire dans la deuxième couronne du Mans. Donc on est assez rapidement sur notre lieu de travail dès lors qu'on est dans le secteur de l'hôpital, de l'université ou dans tous ces commerces qui sont ouverts aux petites entreprises là autour d'Auchan, Saint-Saturnin, La Chapelle, Saint-Aubin. Après, on a aussi un certain nombre de nos habitants qui travaillent dans des zones ou dans des entreprises voisines, par exemple Innovac Le Grand à Sillé.
Ouais.
Par exemple.
Alors, Sillé, qui a combien de kilomètres de cure environ?
En trajet, c'est. Allez, ça va, si on est dans le bourg, ça va être un quart d'heure, 20 minutes, entre un quart d'heure et 20 minutes, quoi. Vous avez aussi, autrement, des gens qui travaillent un peu du côté de Loué. Donc, dans. Oui, enfin de louer là, donc au Cavol, donc à l'abattage, ou alors au niveau du couvoir. Donc on a là aussi quelques actifs qui font la route tous les jours. Après, voilà, je veux dire, c'est ça, les deux pôles secondaires, c'est Sillé et Loué, du fait de ces deux grosses entreprises, mais l'essentiel de notre activité est sur le Mans. Et puis, il y a une activité agricole quand même qu'il ne faut pas oublier.
Oui, justement, sur Cure, est-ce qu'il y a encore des agriculteurs et combien sont-ils à peu près?
7-8 sièges d'exploitation.
Ouais.
Alors, vous avez au moins une personne active par exploitation, un petit peu plus, donc on pourrait dire peut-être une bonne douzaine d'actifs. Donc aujourd'hui, si on raisonne en termes d'actifs, c'est vraiment très très marginal. Mm-hmm. Si on raisonne en termes d'activité économique, d'entretien des paysages, de marque par rapport à la commune, quand vous arrivez, que vous revoyez un petit peu le contexte général, bon évidemment, l'agriculture, elle est omniprésente parce que c'est tout ce que l'on voit avec un peu d'habitat.
Ce que l'on voit, ouais. Et justement, au niveau des agriculteurs, est-ce que vous avez remarqué une mutation, une transformation un petit peu du monde agricole, puisque je sais que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup de par votre formation, par votre profession. Est-ce que vous avez vu, vous, dans le secteur de Cure, l'installation, par exemple, de nouveaux agriculteurs de type agriculture biologique?
Pour l'instant, non. Alors, il faut dire que la commune, elle est scindée en deux terroirs. Je dirais que pour les deux tiers, on est dans un espace ouvert d'open field de type céréalier.
Oui,
c'est la plaine de Conly.
Oui, c'est la plaine de Conly que l'on connaît pour ses paysages lunaires à perte de vue.
Ce sont des céréales pour l'essentiel et puis des bâtiments hors sol avec du porc, avec de la volaille. Et puis pour un tiers, on est là sur un terroir d'élevage, beaucoup plus vallonné, prairies, production de bovins viande, de bovins lait. Mais là, on est dans un secteur aujourd'hui qui souffre, hein, parce que le lait, clairement, c'est un vrai problème pour le monde agricole. Donc les exploitations sont en difficulté, elles sont obligées de trouver des formes de reconversion. Beaucoup arrêtent le lait pour faire autre chose. Essayer de trouver des sources de revenus par ailleurs. Ça ne veut pas dire que dans les autres secteurs agricoles, ça soit toujours facile. Disons que c'est plus fluctuant. Il y a des années très très compliquées, hein, et puis il y a des années un peu meilleures. Mais si on prend par exemple le cours du porc, on voit bien que
c'est très variable.
Il y a des moments
où ça va bien. Le beurre aussi en ce moment.
Tout ce qui touche.
Oui.
Alors le beurre, on en manque, et les agriculteurs n'arrivent pas à vendre leur lait à un prix correct. Allez y comprendre quelque chose. C'est tout simplement parce qu'il y a un certain nombre de sous-produits qui n'ont plus de valeur, qu'on n'arrive pas à écouler, et donc évidemment les industriels bloquent finalement par rapport à ça, parce qu'ils n'écoulent que la partie noble et le reste sur les bras, et donc au final c'est toute la filière qui se trouve en difficulté, quoi.
Alors revenons un petit peu à la commune. On connaît tous aujourd'hui les communautés de communes. Justement, à quelle communauté de communes Cure est-elle rattachée aujourd'hui?
Alors, à la 4CPS.
Alors, qui veut dire?
Communauté de communes de la Champagne conlinoise, donc voilà les 4C,
ouais.
PS, et du pays de Sillé, puisqu'on a fusionné donc suite à la loi NOTRe de 2015. Donc depuis 2016, on est ensemble, on a fait un mariage.
C'est pas 2017 c'était pas
2017, 1er janvier, excusez-moi. La loi est en 2015, en 2016, donc on a réfléchi, travaillé un petit peu, et au 1er janvier 2017, là le mariage a été effectif, et donc ça fait maintenant un an quasiment qu'on est en train d'harmoniser nos fonctionnements, notre organisation et ça implique évidemment beaucoup de réunions et puis de traiter des problèmes que nos concitoyens n'imaginent pas, mais évidemment, c'est pas que de la fiscalité, c'est des organisations de ramassage d'ordures ménagères, c'est de la petite enfance, c'est tout un tas de services qui fonctionnaient différemment avant, puisqu'il y avait deux communautés de communes, maintenant il n'y en a plus qu'une, il faut mettre tout ceci en musique.
Sans entrer dans le détail, ils avaient chacune leurs compétences, ce qu'on appelle des compétences un petit peu différentes selon les anciennes communautés de communes. Voilà.
Alors,
et l'idée, c'est d'harmoniser un petit peu tout ça aujourd'hui, ce qui n'est pas simple.
Tout à fait. Donc, en fait, vous avez des intitulés de compétences qui peuvent être très proches. Hein, par exemple, développement économique, aménagement du territoire, c'est ce qu'on avait avant en compétences obligatoires. Simplement, à l'intérieur de ces compétences, dans le détail, évidemment, ce n'était pas du tout la même chose. Vous pouviez avoir dans le domaine, par exemple, ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des situations très, très différentes à gérer. Alors, il y en a qui doivent l'être impérativement avant le 31 décembre de cette année, par exemple dans le domaine économique.
Ouais.
Il y a des compétences où on a encore un an de plus, parfois deux ans, lorsqu'il s'agit d'eau, d'assainissement. Et évidemment, il faut réussir à trouver des compromis entre les élus, avec des cultures, des pratiques, une histoire de travail en commun qui n'est pas la même. Donc c'est pas toujours simple, même si tout le monde a fait preuve de bonne volonté, mais on pense aussi toujours à nos concitoyens, et donc qu'est-ce qui est le mieux pour eux, quoi.
Et est-ce que vous exercez justement là-bas un mandat particulier à cette communauté de communes ?
Alors, par le passé, j'ai été vice-président de la communauté de communes de Conly pendant 7 ans. Aujourd'hui, je ne suis que dans le bureau de la communauté de communes, je dirais, en tant qu'invité au titre de mes fonctions de conseiller régional des
D'accord.
Pays de la Loire.
Oui. Alors, revenons sur la commune maintenant. Est-ce qu'elle propose des services, des commerces, lesquels ? Puisqu'une commune de 500 habitants, on imagine qu'il y a peut-être un petit commerce, un petit café ?
Non. Écoutez, depuis je suis maire, c'est-à-dire depuis 1995, donc ça commence à dater, je n'ai jamais vu de commerce, hormis une tentative d'un petit point qui avait été fait par un commerçant en accord avec la mairie, mais ça n'a pas fonctionné durablement, c'était un peu d'épicerie, etc. Donc il n'y a plus de commerce, de café depuis au moins 30 ans dans notre commune. Alors
c'est le point le plus près pour aller chercher du pain,
C'est très proche en fait, c'est-à-dire qu'on n'a rien dans le bourg, mais vous êtes à 3 minutes du supermarché, donc du Super U, pour ne pas le nommer, de Conly.
C'est-à-dire
qu'on est aussi près, nous, de la zone du Super U de Conly, que les gens qui sont à l'autre bout de Conly et qui doivent aussi prendre leur voiture.
Alors, question quand même que je me pose, c'est pour les personnes âgées, je suppose qu'il y en a dans sur votre commune, comment font-elles pour aller simplement acheter du pain ?
C'est pas forcément la vraie difficulté, tout simplement parce que des personnes âgées, déjà, il n'y en a pas beaucoup dans la commune. Ensuite, elles conduisent. Et lorsqu'elles ne peuvent plus conduire, en règle générale, elles déménagent au chef-lieu de canton, ou alors c'est directement foyer logement ou maison de retraite. Au final, on s'aperçoit que même des gens qui ont un certain âge, aussi longtemps qu'ils peuvent conduire, finalement, c'est aussi une sortie, c'est un plaisir d'aller rencontrer des gens dans le bourg d'à côté, donc à Conly, pour faire clair, pour faire simple. Un petit peu à Donfront pour le pain, pour toute la commune, la partie de la commune qui est tournée vers Donfront-Lavardin.
Et au niveau des jeunes, où est-ce qu'ils vont à l'école, les enfants de cure ?
Eh bien, ça dépend de leur âge.
Vous me dites qu'il y a des familles qui sont installées, donc je suppose qu'il y a beaucoup d'enfants. Et par exemple, à l'école primaire, ça se passe comment ?
Alors, l'organisation de l'école primaire se fait conjointement avec Donfront-Champagne et la chapelle Saint-Fray. Nous sommes dans ce qu'on appelle un CIVO, c'est un syndicat intercommunal à vocation scolaire qui date des années 80. Nous mettons en commun donc un certain nombre de moyens humains et financiers scolariser 190 élèves à peu près pour les trois communes. Et à Cure, nous avons deux classes, les CP-CE1, même si des fois ça varie un petit peu, mais disons les CP-CE1, à Donfront il y a 4 classes, et à la Chapelle Saint-Fray il y en a 2 également.
Alors le nombre d'associations sur la commune et puis les entreprises, alors je suppose qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais des associations je pense qu'il y en a aussi sur Cure.
Il n'y a pas assez d'entreprises, moi je voudrais bien qu'il y en ait un peu plus, surtout des entreprises qui amènent de la richesse professionnelle, un peu d'argent à la commune, si maintenant on est passé en fiscalité professionnelle unique au niveau de la communauté de communes, mais on sait bien que c'est à la fois de l'emploi mais aussi de la fiscalité, les entreprises, donc Mais non, on en a très très peu. On a quelques artisans, 3-4 artisans qui donc peintres, carreleurs.
Ce qu'on retrouve beaucoup dans toutes les communes rurales.
Oui, voilà, fait, des métiers, j'allais dire, qui trouvent des commandes de proximité. En association, nous avons quelques associations. Donc, nous avons bien sûr un club de foot, la Escure. On a un comité des fêtes. On a Famille Rurale. Mmh. On a comité des fêtes, Famille Rurale, les aînés ruraux.
Oui.
Enfin, donc Génération Mouvement pour.
Oui, parce que là, faut pas les vexer. Hein,
non. Donc Génération Mouvement, je précise bien. Nous avons un club qui est pas une association, mais un club de vannerie qui.
Ah oui, ça c'est curieux. Ça.
C'est assez original. Disons que c'est une branche rattachée au comité des fêtes pour des raisons administratives et comptables, j'allais dire, mais en réalité qui a un fonctionnement indépendant avec des gens qui viennent d'assez loin, mais qui viennent donc travailler l'osier, donc faire des paniers.
Oui, c'est assez original pour être mentionné.
Tout à fait. Une vingtaine de personnes qui, donc parfois depuis l'origine, hein, ça fait au moins 15 ans peut-être que ça existe, peut-être plus maintenant, des gens qui viennent, qui n'hésitent pas à faire 20-25 km pour venir donc apprendre à tresser l'osier et faire des paniers tout simplement.
Alors au niveau des projets de la commune, quels sont les projets en cours et qu'est-ce que vous voudriez voir fait avant la fin du mandat ?
Alors, nous avons des projets qui sont fonctionnent déjà de nos finances, de notre budget communal.
Ah oui.
Nous sommes une des communes les plus pauvres du département. La commune de Cure n'a pas de richesse professionnelle, pas d'entreprise, et c'est ça qui fait vraiment la différence. Ensuite, donc autrement, c'est que du foncier non bâti, du foncier bâti, de la taxe d'habitation, c'est-à-dire les ménages, les agriculteurs ou les propriétaires fonciers. Donc là, évidemment, c'est une ressource, j'allais dire, limitée. Alors, nos projets, donc...
Alors, juste rappeler le budget global de la commune, c'est à peu près...
L'investissement est très fluctuant. Hein, ouais. Ça peut être proche de zéro une année et être de 200 000 euros trois ans après. Quoi, ça va, parce que comme on n'a pas de ressources vraiment très importantes, il faut provisionner.
Et puis il faut programmer dans le temps.
Provisionner,
aussi.
Programmer. Et donc pour l'investissement, c'est vraiment très 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 variable. Hein. Mais j'allais dire qu'on a un budget autour de 200-220 000 euros à peu près chaque année.
Et au niveau des projets, donc, avant la fin du mandat, qu'est-ce que vous voudriez voir ?
Actuellement, il faut déjà qu'on boucle. On est en train de boucler un gros projet qui est celui de l'aménagement du centre-bourg. Donc, j'invite tous les gens qui ne sont pas encore passés, qui n'ont pas encore vu donc, le nouveau visage du bourg à traverser le bourg de Cure. Donc, on a fait des travaux importants à la fois pour embellir, donner une image, puis en essayant de garder le cachet rural. Donc, on a travaillé sur les murs, on a travaillé sur le côté paysage. On a gardé un parc qui est en fait un verger en centre-bourg. On va donc essayer de mettre en valeur un petit peu ce cachet particulier. On a aussi bien sûr sécurisé le bourg parce qu'on avait des problèmes de sécurité. Je ne dis pas que tout est réglé aujourd'hui, mais on y a travaillé. Donc de façon notamment à ce que les enfants, les jeunes, les scolaires, etc. puissent circuler, mais aussi les personnes qui viennent à la mairie, etc. qu'on soit en sécurité et qu'on ne risque pas de se faire renverser par des véhicules qui passent maintenant, enfin souvent à vive allure, donc ça on y a travaillé également, et puis permettre aussi de circuler pour les personnes à mobilité réduite, ou les gens avec des poussettes, enfin etc., de pouvoir circuler dans le bourg avec des cheminements qui sont aux normes en termes de pente, enfin vous voyez, de façon à pouvoir passer de l'église à la mairie, à la salle des fêtes, à l'école, tout ceci donc en toute sécurité. Donc voilà, c'est un gros morceau à avaler qui est en train de se terminer. C'est à peu près 260 000 euros hors taxes de travaux, et ça fait suite à un précédent chantier à peu près de même importance d'un point de vue budgétaire qui avait constitué en la rénovation de tout un ensemble de bâtiments dans lequel on trouve aujourd'hui la mairie. Et là encore, c'est une vieille grange qui a été remise dans son jus, restaurée, et puis toute une ancienne maison d'habitation, de ferme, etc., qui est en plein cœur du bourg, attenant donc au verger que j'évoquais tout à l'heure. Et donc ça nous fait maintenant un cœur du bourg entièrement refait. Et je dois avouer qu'on, le conseil municipal a énormément travaillé là-dessus, et les élus locaux sont assez fiers du résultat, même... c'est pas tout à fait bouclé, mais enfin, là, il reste encore 5-10% à faire et après, ça sera fini.
Alors, une commune donc à aller visiter, si on passe par là, s'arrêter un petit peu à Cure pour voir
Oui, oui, tout à fait. Hein, honnêtement, on est assez fiers de nous, quoi, parce qu'on y a passé énormément de temps. On a eu beaucoup de discussions. Et puis, à partir du bourg, on peut aussi cheminer dans les 15-20 kilomètres de chemin pédestre et pour découvrir le reste de la commune également.
Alors, je vous propose une première pause musicale full sentimentale, Alain Souchon.
De nous dérisoire, car foule sentimentale, on a soif d'idéal, attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comment. Ces cartons d'emballage, des gens lavés hors d'usage, et tristes et sans aucun avantage. On nous inflige des désirs qui nous affligent. On nous prend, faut pas déconner, déconner, pour des cons alors qu'on est. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comme on nous parle, comme on nous parle. On nous Claudia Schiffer, on nous Paul Louis Solitaire. Oh, le mal qu'on peut nous faire et qui ravage à la moqueur du ciel dévale un désir qui nous emballe pour demain nos enfants pâles, un mieux, un rêve, un cheval. Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales, foule sentimentale, il faut voir comment on parle, comment on parle. Thank you.
retour sur Fréquencier 87.9 FM avec Dominique Amiard, maire de Cure. Alors, vous nous avez dit tout à l'heure que vous étiez maire depuis 1995, c'est bien ça?
Oui, tout à fait. J'étais maire à 32 ans.
À 32 ans. Donc 95. Et est-ce qu'avant, vous avez exercé un mandat de conseiller municipal, adjoint?
Non, j'ai pas eu le temps, en fait.
Alors, directement propulsé maire, comme ça?
Oui, j'ai fait une liste. J'étais tête de liste pour être maire, et c'est cette liste-là qui a été choisie par les électeurs de la commune.
Et est-ce que c'est pas trop compliqué d'arriver comme ça, sans avoir exercé un mandat, de se dire on va être... Parce que c'est une chose, c'est de se présenter, mais après, il faut quand même assumer le mandat. Et c'est...
Bah, j'y avais réfléchi avant, quand même.
Hein, oui, si vous voulez, bien,
j'étais,
oui.
Je constituais ma liste, j'étais tête de liste, donc j'avais un programme, une ambition, un projet. Je savais à peu près quand même où je mettais les pieds.
Ouais.
Bon, voilà, et à partir du moment où... Mais bon, c'est vrai quand même que la toute première fois où on anime un conseil municipal, et même au dépouillement, enfin, je veux dire, il y a quand même des tentes... très fort, dont que je n'oublierai jamais, quoi. Le premier mariage, ou enfin vous voyez, ce sont des moments comme ça. Bon, puis c'est vrai que j'étais quand même relativement jeune, j'avais pas non plus siégé dans un conseil municipal, même si je savais très bien comment ça fonctionnait. Mon père avait été adjoint dans une autre commune, donc j'avais entendu et vécu par procuration en quoi ça consistait, quoi.
Et justement, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir maire? À vous présenter sur une liste et puis après à exercer la fonction de maire. Est-ce que c'est un peu par hasard? Est-ce que vous vous dites, je me lève, je me suis rasé un matin en pensant à la fonction de maire, mais bon, ou est-ce que c'est une idée, un projet?
C'est
que
une,
vous
envie.
Aviez,
une envie. C'est une envie parce que, en fait, bon, moi je suis enseignant à l'université. Donc en géographie, aménagement du territoire, et donc enseigner l'aménagement du territoire, les politiques publiques d'aménagement du territoire, c'est une chose. Passer de l'autre côté de la barrière
et pouvoir
mettre en œuvre et pas simplement discourir, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Donc je m'étais posé la question plusieurs fois de savoir comment je pouvais véritablement avoir ces deux casquettes, à la fois l'une plus théorique et celle de l'enseignant, et puis l'autre celle du praticien. Et donc j'ai eu un petit peu de temps juste avant ces élections pour construire cette liste et puis regarder vraiment puis sentir un petit peu la commune, et puis j'y suis allé comme ça avec une équipe, et puis ça a passé, quoi.
Et vous êtes habitant de Cure depuis très longtemps, j'imagine?
Non, je suis arrivé en 92, hein, on est arrivé en 92, et
d'accord.
Donc en 95 je suis devenu maire.
D'accord. Alors justement, on parlait de ces fonctions de maire. Vous êtes aussi conseiller régional, d'après ce que vous m'avez dit tout à l'heure.
Oui, alors là, c'est plus récent.
C'est plus récent, oui.
Puisque c'est décembre 2015, donc ça va bientôt faire 2 ans que je siège à Nantes. Donc là, c'est une autre expérience, très intéressante d'ailleurs, et tout à fait complémentaire. C'est-à-dire que là encore, je ne suis pas surpris par ce que j'ai découvert à Nantes, parce que je pratique quand même un certain nombre de milieux, et j'ai une certaine connaissance de la façon dont les choses fonctionnent. Mais c'est très intéressant pour moi qui suis là encore des deux côtés, c'est-à-dire à la fois quand j'enseigne les contrats de plan région, état région avec mes étudiants, mais que de l'autre côté je suis aussi à Nantes pour voir dedans comment ça fonctionne. Donc, et puis il y a tout le jeu politique aussi qui n'est pas inintéressant. Vous avez à la fois le fond, la forme, les acteurs, les positionnements des uns et des autres, parce qu'en fait la région, c'est dans son fonctionnement, dans son assemblée, c'est une petite assemblée nationale, quoi.
Oui, c'est un espace politique, à la différence d'une commune comme Cure, où je pense que les enjeux politiques, enfin politiques, politiciens, sont pas du tout les mêmes.
Ben non, c'est-à-dire quand on est à Cure, dans mon conseil municipal, j'ai des gens de toute sensibilité politique, et j'aurais jamais demandé pour qui ils votaient. L'intérêt, c'est qu'ils apportent des connaissances, des compétences, du temps, de l'investissement, et que ça profite à tout le monde. Quand on est au niveau départemental, au niveau régional, et a fortiori, bien sûr, au niveau national, bien sûr, tout le monde travaille dans le sens du bien commun, enfin, je veux dire, les élus sont dans cet esprit-là lorsqu'ils arrivent dans une assemblée de ce type, mais il y a inévitablement des rapports politiques. Avant, c'était droite-gauche, maintenant, c'est plus compliqué, le paysage s'est morcelé.
C'est encore en recomposition, d'ailleurs, en ce moment.
Voilà,
donc
y compris
complexe,
la région, où les choses bougent également. Donc, il y a ce jeu politique qui s'ajoute donc au travail de fond sur des dossiers, et c'est extrêmement intéressant parce qu'on sort du niveau local pour avoir une réflexion réflexion à l'échelle de l'ensemble d'une région, Pays de la Loire. Ouais. Et c'est très intéressant ce qui se fait à Nantes, ce qui se fait en Vendée. Ça n'a rien à voir avec ce qui se fait en Sarthe ou en Mayenne. Donc, intellectuellement, c'est
riche.
C'est très riche. Et puis, on rencontre des gens qui ont d'autres expériences également.
Alors, on a l'impression, à vous entendre, que vous passez sûrement beaucoup de temps en réunion, que les dossiers sont aussi techniques. Est-ce que ce travail de maire, finalement, ça ne devient pas un travail de technicien ?
En partie, mais il faut qu'on évite aussi de n'être que des techniciens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut plus être un maire comme il y a 50 ans, en passant deux fois une demi-heure dans la semaine pour signer deux trois documents et puis en repartant faire son activité. Non,
oui,
aujourd'hui
c'est
un maire aujourd'hui, on peut considérer que c'est un mi-temps.
Un mi-temps
sur la semaine. Alors le mi-temps, il va pas forcément être dans la journée. Hein. Voilà,
j'ai
regardé mon agenda là il y a quelques instants. Cette semaine, donc, j'ai trois réunions le soir, voire quatre si je veux. Samedi matin, je devrais être également pris. Ce matin, j'étais à la mairie. Demain après-midi, il faut sans doute que j'y passe une heure ou deux. Mercredi, je vais sans doute passer une petite heure également. Donc, j'essaie par rapport à mon emploi du temps de jongler.
De jongler, ouais, ce qui n'est pas évident, j'imagine, parce qu'il y a certains élus qui se disent, enfin, qui disent que les maires, ça devient un travail très chronophage.
C'est très lourd, oui.
Et la question qui se pose, c'est comment avoir une profession à côté. De ce travail,
toutes les professions sont pas forcément, moi je dis clairement, toutes les professions sont pas forcément compatibles, du moins une profession exercée à temps complet. Donc je vois bien, donc évidemment il y a les retraités, pour eux c'est plus simple, même si ça les mobilise beaucoup d'être élus. Il y a les gens qui travaillent dans le secteur privé qui ont des contraintes particulières, donc parfois ils se mettent à temps partiel, mais il faut encore que l'entreprise l'accepte. Il y a dans le secteur public aussi de fortes pressions aujourd'hui au niveau travail, niveau investissement. Il faut. Il se trouve que moi je suis enseignant, donc je cale mes réunions en fonction de mes cours. Donc j'essaie de jongler. Je travaille un quart d'heure, 20 minutes de ma mairie. Donc je peux facilement revenir dans la journée, repartir. Un certain nombre de réunions sont le soir. Et puis il est clair que tous les matins je suis levé à 6h, 6h15. Et puis je me couche jamais avant 23h, minuit, 1h du matin.
Alors sur l'avenir des communes, puisqu'il y a cette question justement du temps qu'on y passe, qui peut aussi freiner certaines personnes qui voudraient se lancer dans, pourquoi pas, un peu comme vous, dire je veux quelque chose qui m'intéresse, je veux devenir maire. Mais on voit aussi qu'il y a en ce moment toute la baisse des attributions, toutes les aides de l'État, des subventions de l'État depuis 2012. On nous parle de la taxe d'habitation aujourd'hui qui est en diminution. Est-ce que l'équation que les élus devront faire, c'est-à-dire faire autant avec moins, sera tenable dans le temps?
Alors il faut déjà peut-être faire un ou deux rappels. Les collectivités en général ont été mises à contribution dans le cadre du redressement des finances publiques depuis plusieurs années, ce qui a entraîné une baisse de la DGF. Pour les communes les plus pauvres, pourrait-on dire, c'est-à-dire notamment la mienne, il y a eu une compensation, j'allais dire, quasi intégrale. Le problème, ça a été la visibilité. On ne savait pas trop comment ça allait se passer. Au final, on s'est aperçu, quand on fait le bilan, que c'était à peu près, ça se compensait, une péréquation horizontale et verticale. Là, actuellement, donc on n'est pas plus riche aujourd'hui, pas plus pauvre. Voilà, je suis toujours dans la même situation pour les communes du type de celle de... que j'administre.
Sauf peut-être à se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire dans un an ou dans deux ans si j'ai pas de visibilité sur le
budget, c'est toute la question. Alors il y a des débats évidemment là aujourd'hui autour de la taxe d'habitation, l'exonération à 80 ou à 100%. Quand c'est un impôt qui rentre dans les caisses de la commune, on sait que tous les ans on a une somme fixe. Quand c'est l'État qui vous donne une compensation d'un dégrèvement, alors un dégrèvement normalement c'est à l'euro près, c'est compensé à l'euro près, mais d'une année sur l'autre, l'État peut changer les règles. On le sait bien, on a quand même un peu d'expérience. Et puis, à un moment donné, nous dire, écoutez, il y a un effort particulier à faire. Et donc, au lieu de vous donner 100%, on vous en donne plus que 90, puis l'année d'après 80.
Oui.
Et quand on a très, très peu de marge de manœuvre au niveau budgétaire...
Comme à cure,
parce que moi, j'ai vraiment... je ne peux pas perdre un euro, quoi. Sinon, on ne sait même plus la peine, c'est plus viable. Il faut un minimum d'autofinancement pour avoir des projets. S'il s'agit simplement de payer les factures, il n'y a pas besoin d'un maire ou d'un conseil municipal. Donc si on veut encore avoir quelques projets, donc il faut de l'autofinancement, un minimum, on n'en a déjà pas beaucoup, donc il faut qu'on ait une visibilité. Et donc c'est un peu la question qu'il y a autour de cette taxe d'habitation, au-delà du fait qu'il est bien aussi que les habitants gardent un lien avec la commune par le biais d'impôts, en disant on paye, mais au moins on voit ce qui se passe autour, c'est pour l'école, c'est pour les routes, c'est pour l'aménagement du bourg, c'est pour la salle des fêtes, voilà, c'est un impôt dont la dépense est visible et perceptible par tout le monde, quoi.
Est-ce que vous pensez, pour terminer, que les communes sont conduites à disparaître au profit des communautés de communes ?
Ah, j'espère pas. Moi, mon engagement, il est pour maintenir un monde rural bien vivant. Or, les petites communes sont essentiellement dans le monde rural français. Mais il y a encore 60% à peu près du territoire français qui est rural. Ouais. Il y a 20-25% de la population qui vit dans le monde rural. Donc, il faut qu'on se batte pour garder cette France-là à côté de la France des urbaines, la France des métropoles. C'est pas l'un contre l'autre, c'est les deux ensemble. Ensuite, la question de l'organisation territoriale, moi je crois qu'il faut absolument maintenir des communes. Le fait qu'il y en ait 35 500 ou 36 000 aujourd'hui, ce n'est pas le problème, puisque de toute façon, on fonctionne pour l'essentiel en intercommunalité. Ouais. Donc les grands enjeux sont traités déjà dans un cadre intercommunal. Mmh. La proximité, le lien des habitants avec le territoire permettent aux habitants d'avoir des élus de proximité. Puis il y a tout le bénévolat qu'il y a dans les conseils municipaux. En France, il y a 500 000 élus locaux, dont 80 ou 90% sont des bénévoles, c'est-à-dire des gens qui viennent donner un coup de main, l'un avec son tracteur, l'autre, etc. Ça vous maintient, j'allais dire, une vie dans la commune. Ces gens-là font des travaux bénévolement, ils participent à prendre des décisions, ils se sentent concernés, c'est vos voisins. Donc si jamais vous avez quelque chose qui ne va pas, bah, vous pouvez même aller frapper à leur porte pour vous plaindre, même si à limite, eux ne peuvent pas forcément faire, mais ils vont remonter au maire qui lui-même va dire à la communauté de communes, écoutez, les ordures ménagères n'ont pas été bien ramassées, etc. Les gens n'ont pas 10 km à faire pour aller se plaindre. Donc ce lien de proximité, il faut absolument le garder avec un minimum quand même de compétences dans nos communes pour que ça reste encore un minimum intéressant aussi pour les conseillers municipaux, quoi.
Oui. Eh bien, Monsieur Amir, je vous remercie pour cette longue interview sur la vie de Cure et sur votre vision aussi des communes rurales. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation.
Bah écoutez, c'est passé très vite, mais je vous remercie. Tout le plaisir était pour moi.
Merci, au revoir.
Au revoir.